Je commence l'épisode avec des excuses. Et pourquoi je m'excuse? C'est simple. C'est que la semaine dernière, j'ai sauté une semaine de publication et je me l'ai fait dire sur Instagram. Mais je suis content de me l'avoir fait dire parce que ça veut dire qu'il y a des mordus du podcast. Et ça me fait plaisir de le voir. Même chose à ceux, bien sûr, qui laissent un commentaire écrit, excusez-moi, sur l'application Balados ou qui me DM sur Instagram pour me dire à quel point ils aiment le podcast. Merci beaucoup, j'apprécie. Ça expose une grande faiblesse de mon système de d'enregistrement, de publication de podcast. Dans mes temps de live, j'ai été habitué de tout faire on the spot. Pour le podcast et avec l'horaire de travail que j'ai, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais enregistrer plein d'épisodes, je vais les éditer, je vais les pré-publier. Donc, ça n'arrivera plus. Là, ça me trottait à chaque jour dans la tête. Faut que je publie. Et là, vous comprendrez que dans ces temps historiques, le focus est sur Believe Supplements, il est sur Believe Lab. Beaucoup de choses à gérer. C'est venu avec beaucoup de questions, beaucoup de stress. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui est allée dans le business. Dans les deux, la courbe d'apprentissage du lab est extrêmement grande et c'est moi qui gère le lab. Je continue de gérer Believe aussi en partie. Fait que c'est beaucoup de temps. Je vous dirais en toute transparence, ce mois-ci, j'ai pris une journée de congé. C'était samedi, il y a deux jours. Hier, on était dimanche, puis je suis parti du bureau à 8h45. Fait que il y a beaucoup d'énergie, de temps qui est mis dans Believe. Et sans faire d'excuses, c'est pour ça que j'ai dû skipper la semaine dernière, là, question d'énergie, je vous dirais, là, tout simplement. Mais on va remédier à la situation. P.O. Drouin, aujourd'hui sur le podcast, président de Firebarns, des sauces qui sont excellentes. D'ailleurs, j'en ai commandé, j'en ai reçu. Et n'est-ce pas P.O. qui me les a envoyées, c'est moi qui ai commandé pour le bureau. J'en ai même commandé une boîte cadeau, je vais la faire tirer, vous allez voir dans le podcast, j'en parle. Fait que un des chanceux auditeurs va avoir une boîte cadeau de Firebarns que j'ai acheté sur leur site web. Parce qu'on fait des achats locaux, on encourage, c'est le temps d'encourager les entrepreneurs québécois. Et leurs sauces sont excellentes. PO, c'est un gars avec une belle histoire, quelqu'un que j'ai rencontré totalement par hasard. On en parle dans le début de l'épisode, excusez-moi. PO également a fait Dans l'œil du dragon. On a complètement oublié d'en parler. J'avais ça en note sur mes feuilles, puis finalement, on n'en a même pas parlé. Donc peut-être que je vais réinviter PO pour qu'il nous raconte son histoire dans l'œil du dragon. Je serais curieux. J'ai plein de questions pour lui. J'aimerais savoir comment ça fonctionne. Mais vous allez voir, PO, c'est pas le genre de gars qui prend un non comme une réponse finale. Et il y a des histoires croustillantes là-dessus. D'ailleurs, PO, il y a aussi des bonnes histoires de gestion du stress parce que du stress, il y en a vécu. Donc, je vous retiens pas plus longtemps. Écoutez ça et n'oubliez pas de suivre Firebarns sur Instagram. Écrivez à PO et écrivez-moi, bien sûr, vos reviews de l'épisode. J'adore vous entendre, en fait, vous lire. Donc, guys, on se plonge maintenant dans l'épisode. Aujourd'hui, avec Théo Drouin, cofondateur, copropriétaire de Firebarns, des sauces épicées 100% québécoises. J'ai pris le slogan sur ton. Et barbecue, excuse, j'ai pris le slogan sur ton Instagram, tu rajouteras barbecue.
Ouais.
Théo et moi, on s'est rencontrés, tu te souviens-tu, man? On s'est rencontrés, je déjeunais seul au Cosmos sur Boulevard Laurier, un matin, un dimanche, en octobre 2017. Puis, je descendais à Montréal, je sais pas ce que je faisais à Québec. Puis toi, tu déjeunais aussi tout seul à côté de moi. Yes. Puis à un moment donné, tu sais, je te reconnaissais, mais je n'étais pas sûr. C'est toi le gars des sauces. Et puis c'est, puis t'es comme, ouais, man. Puis là, on a commencé à jaser, puis c'était cool, c'était super le fun. On a déjeuné ensemble, finalement, mais ouais, ça a été une belle rencontre. On the fly, PO, comment ça va, man?
Ben, je pense que ça va super bien. Puis même si je pense qu'on s'est parlé au téléphone, on s'est changé nos numéros respectifs, puis en redescendant à Montréal, tu m'as appelé parce que tu avais de quoi me parler d'un projet quelconque, là. Fait que, ouais, je me rappelle cette fois-là, tu m'as rappelé ce moment-là, effectivement.
Ah, ouais, non, c'était super cool. Puis, PO, parle-nous un peu de ta compagnie aussi, son essence, de où ça vient. Non seulement ça, mais j'ai une autre histoire. Toi, pendant, je pense, ton dernier chiffre au Délice comme barman, moi, je commençais mon premier le lendemain, quelque chose de même. On était vraiment en transition, les deux. On n'a jamais travaillé ensemble, mais toi, t'étais out, moi, j'étais in. Fait que c'est ça, on s'est connus de même sur le fly, d'autres.
Quasiment au balbutiement de Firebarns, parce que, si je me rappelle bien, une fois que j'ai terminé au Délice, ça, c'était en septembre. Firebarns a été créé comme en février de quelques mois plus tard. Mais tu sais pas, c'était juste le projet. Mais la création de Firebarns s'est faite comme le 22 ou le 21 juillet. Je pense que c'est le 21 juillet 2015. Donc, ça va faire 5 ans. Là.
OK.
Exactement. 5 ans dans quelques mois. Comment on a commencé ça? Frank et moi, on avait une vision du marché de la sauce piquante. On se disait que, en fait, c'est le slogan un peu de notre entreprise, c'est démocratiser le monde de la sauce piquante et barbecue et le rendre accessible à tous. Donc, on s'est dit, on voulait être un Tabasco haut de gamme, accessible à monsieur, madame, tout le monde. Donc, on voulait être la nouvelle option à Tabasco. Parce que Tabasco, on va se dire, là, c'est 306 millions de bouteilles produites par année, c'est 150 ans d'histoire, c'est 5 générations de la famille Michelini, ça appartient encore à la même famille. Fait que, tu sais, c'est big,
c'est insane, le Tabasco. Ils n'ont pas tant de SKU, là.
Non, pas tant. Ben, attends, ça, c'est ce que tout le monde croit. Mais quand tu vas sur la boutique en ligne de Tabasco, là, je ne vais pas leur faire de plug, là, mais ils ont à peu près 100, 125 SKU. Hein? Pas juste de sauce. Ils ont des chips, du popcorn, ils ont des tabliers, ils ont des porte-monnaie, ils ont une multitude de produits dérivés.
OK. Tu vois, moi, je connais Tabasco, là, au meilleur de mes connaissances, c'est ça que je mettais dans des Bloody Caesar. Là.
C'est exactement. Puis je crois, puis j'essaie de pousser l'histoire à comprendre, mais il y a plusieurs années à la création du cocktail Bloody Caesar ou Bloody Mary. On appelle ça une recette classique parce que dans le livre des mixologues, là, ça s'appelle, je ne sais pas de quelle façon ça s'appelle, est un livre de cocktail classique. Puis dans la recette du cocktail classique, il y a 3 gouttes de Tabasco dans le Bloody Mary et Bloody Caesar. Alors, si tu vas faire un Bloody Caesar, ça te prend 3 gouttes de Tabasco. Puis on s'en glisse un mot. Et tantôt, quand je fais ça, mon travail me permet d'aller un peu partout au Québec faire quelques conférences. Puis la première question que je pose quand j'arrive devant tout le monde, j'en pose deux en fait. Qui connaît Fireburns? Et la deuxième, qui a une Tabasco dans son garde-manger? Je fais lever la main et tout le monde a une Tabasco dans son garde-manger. Fait que le potentiel du marché est là. Donc on s'est dit, on est parti de ça. Puis on s'est dit, on va aller se positionner en tablette à côté de Tabasco. Nous, on pensait que ça serait facile. C'est vraiment pas facile. Fait que là, comment qu'on a commencé ça? Un, pour produire de la sauce, il faut que tu trouves une cuisine centrale ou une usine. Mais où tu trouves ça là, quand tu commences un projet? Parce que nous, on s'est dit, parfait, on va être le prochain Tabasco, ça va être big. On n'avait pas vendu une sauce encore.
Tabarouette, Péo, je t'interromps 2 secondes. Tu as un background particulier ou Frank, un background particulier en cuisine, en alimentation? T'avais-tu des contacts, quelque chose? Pourquoi la sauce? Mais... T'es-tu passionné de sauce dans la vie?
C'est quand... Ça, c'est bon que tu me poses la question. J'ai complètement oublié d'en parler. C'est qu'il y a à peu près... avant de travailler au Délice, justement, en 2014, l'été 2014, cette année-là, avant, je suis allé travailler en Floride 1 an. Puis c'est là-bas que j'ai commencé à manger épicé. Puis c'est vraiment par hasard, quand j'étais allé, il y avait un match canadien à Fort Lauderdale dans un bar sportif. Puis il y avait des bacs d'ailes, plusieurs ailes différentes. Puis j'ai pris une aile épicée. Puis c'est là que j'ai commencé. En croquant dedans, j'ai fait « OK, ouais, je pense que j'aime ça. » Mais avant, j'ai tout le temps j'ai jamais mangé épicé, puis j'aimais pas ça manger épicé. Même pas de poivre à la limite. Là. Donc, ça a commencé là. De cette façon-là, puis j'ai fait « OK, là, on a quelque chose. » Puis, en revenant au Québec, c'est une fois que j'ai travaillé tout l'été au Délice, j'ai rencontré mon partner Frank. Et c'est là que les deux ensemble, mon partner travaillait sur certaines recettes. Et là, en discutant ensemble, en goûtant, en faisant des tests, puis là, c'est là qu'on s'est dit, OK, on a quelque chose entre les mains. Là. On a des bonnes recettes. On a une alternative à Tabasco. Parfait, on fonce. On va défoncer les portes. Fait, qu'est-ce qu'on faisait? C'était très simple. On s'est trouvé une place dans le sous-sol d'un resto. C'est l'ancien Boob au lac Beauport. Ben, okay, ça existe encore. Le resto, ça s'appelle Boob au lac Beauport. Fait qu'on pouvait le produire une fois par semaine. Donc, on produisait des sauces, une quantité X. Fait qu'on faisait ça le soir. On prenait nos sauces et on allait les vendre. Fait que la manière qu'on a travaillé ça, je me rappelle. J'étais allé voir le IGA à côté de chez nous, qui était le IGA Chauveau. J'étais allé voir le gérant d'épicerie, je m'en vais le voir. Je réussis à le reconnaître dans la rangée parce qu'ils sont habillés différemment. Et j'ai dit, écoute, j'ai un projet, j'ai des sauces piquantes, ça t'intéresse-tu? Fait que là, il me dit, viens ici, il m'amène directement dans l'allée des sauces. il me pointe la rangée de toi, toute la rangée de sauce. Malheureusement, je n'ai pas besoin d'autres. Première claque. Merde! Qu'est-ce qu'on va faire?
Ça fait ça?
Ouais. Je retourne chez nous. Puis, j'étais un gars un peu... pas têtu, mais... pour moi, un non, c'est un futur oui. Mais je sais juste pas quand. Sauf que cette fois-là, je l'ai appliqué assez rapidement. Je l'ai retourné le lendemain.
Voir le même gars?
Le même gars le lendemain.
Non, non, non.
Fait qu'il me voit dans l'allée. Il dit, là, je pose encore la question. Écoute, je sais que tu m'as dit non. Mais là, je suis convaincu. Là, je fais ma face de gars convaincu. Il me dit, si hier je t'ai dit non, aujourd'hui, je te dirai pas plus oui, là. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Fait que je retourne chez nous. Tabarnage, pour un petit mot, j'y crois, là. Fait que je suis retourné une troisième journée consécutive. Il me voit au loin dans l'allée. Il s'approche rapidement. Il me dit, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je ne la veux pas, ta de 15.
Ah, oh, ouais.
J'ai tout sans sourire. Fait que là, j'ai fait, c'est OK. Fait que là, je suis retourné une quatrième journée.
Hein?
4 jours de suite. Ouais.
La police, fait direct.
Quand il m'a vu, il m'a dit, amène-moi là ta 15. M'apprendre.
T'es-tu sérieux? Il a craqué ouais. La quatrième fois.
La quatrième journée.
Wow! Hey, j'ai une histoire similaire d'ailleurs. Moi, quand on a lancé Believe en juillet, fin juillet 2016, là, Max n'était pas encore vraiment avec moi. Fait que je faisais des sales calls. Puis c'est vraiment pas ma forte. Là. Moi, c'est vraiment pas les ventes. Du moins, les ventes en ligne, oui, mais pas la distribution en retail. Puis j'ai appelé un client peut-être 2-3 fois. Puis la troisième fois que je l'ai appelé, il a dit la prochaine fois que tu m'appelles pour me vendre du Believe, j'appelle la police. Genre, j'appelle la police après toi. Puis j'ai arrêté. Puis là, c'est un de mes meilleurs clients. Fait que c'est vraiment drôle. Je pense qu'on a toutes des histoires de même où faut pas arrêter à un non. Puis comme tu dis, il n'y a rien de plus près que d'un oui qu'un non, là, littéralement. Fait qu'à la quatrième fois, il prend ta caisse.
C'est ça. Mais là, il me dit, mais là, il va falloir que tu vendes ta caisse. Là, je fais OK, parfait. Fait, instinctivement, ben, premièrement, il me demande, il dit, va falloir que tu ailles faire une dégustation. Parfait. Moi, je dis instinctivement, je vais venir en fin de semaine. Puis il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, j'y réponds tac au tac. Du tartare. Fait que là, j'étais tout content. Je reviens à la maison, chez nous. Puis, tu sais, à ce moment-là, ça allait vraiment pas bien financièrement. Là. J'avais comme 3 mois de loyer en retard. J'étais sur le bord de faire faillite personnelle parce que je payais plus. Là. J'ai acheté des bouteilles, des piments. Fait que là, je prenais mon argent. Au lieu de payer mon loyer, je payais mes piments. Fait que tu comprends? Ça fait, quand tu as 4-5 mois que tu n'as pas de revenus parce que tu t'es investi à 100% dans ton projet, t'es comme, OK, mais là, tu prends ton argent, puis là, c'est parfait. Si je vais acheter des bouteilles et des piments.
Puis là, faut t'ajouter du saumon pour faire du tartare, c'est ça? Là?
Non, la meilleure, c'est plutôt quand je suis revenu chez nous, j'étais tout content. J'appelle Frank. Hey, on a vendu notre première caisse. Frank ne pouvait pas venir cette fois-là avec moi. Et là, je me fais comme, ouais, mais PO, tu sais pas faire du tartare?
Aïe, aïe, aïe.
Fait que là, puis là, en plus, ça faisait comme une couple de jours, je m'étais fait couper l'Internet parce que je n'étais plus capable de payer. Fait que pour avoir Internet, j'avais pris une bouteille de scotch bonnet que j'avais chez nous. J'ai cogné chez mon voisin. Je disais, hey, j'ai un problème avec mon Internet. Je pourrais-tu utiliser ton code Wi-Fi? Garde, je fais de la sauce, je pourrais t'échanger ça en retour. Fait que j'ai troqué de la sauce pour avoir son Internet. Fait que j'ai eu Internet.
T'as bien placé le mot troqué qu'on n'utilise pas, mais ça, c'est du vrai... C'est du vrai trocage, là. Clairement.
Ouais,
oui, c'est de la fourrure contre du blé, là.
Je me suis dit, écoute, le gars, s'il aime la sauce, il va triper. Lui, il va faire parfait. Prends-le mon code Internet, je m'en fous. Fait que c'est ça qui est arrivé. Il a pris mon code, j'ai me donné son code. Fait que là, ça pognait juste dans ma chambre, bonne affaire. Fait que sur mon portable, je me suis mis à écouter sur YouTube des vidéos comment faire du tartare. Le lendemain, j'ai appelé un chef que je connaissais, il me donnait des techniques. Et tu sais, tous ensemble, en fait, en sorte que le samedi, je suis allé au IGA faire le tartare. Fait que là, imagine-toi, là, quand tu vas au IGA puis tu vois des petites madames là, ou des messieurs faire des dégustations, t'as souvent du monde qui s'attroupe en avant là, pour déguster ou entendre ce que l'autre va dire. Et là, je commence à faire mon tartare, mais c'est mon premier, là. Fait que là, je suis pas tant dans la grande confiance, mais en même temps, la perception, c'est la base dans la vie. Fait qu'il faut que tu aies l'air du grand contrôle, même si tu l'es pas. dans ces situations-là. Donc, commence à couper mon tartare, fais le mélange. Là, ma langue commence à se retrouper, à se regrouper devant moi. Alors, dans moi, je bouillais, là, j'étais comme, bon, pas bouillé, mais j'étais comme, OK, mais ça va-tu être bon? Je vais-tu intoxiquer quelqu'un? Fait que là, je brasse ça. Et là, je viens pour le goûter à la première cuillère. Il y a une petite madame qui me dit « Hey, j'aimerais ça goûter. »
Oh my God.
Fait que là, je fais comme « OK. » Fait que j'étends la cuillère. Après la cuillère, elle mange le tartare. Et là, moi, je suis comme « J'ai chaud. J'ai envie de m'en aller. Je suis pas bien. Je suis comme tabarnouche. C'est fini. Ma business est terminée. » Et là, tout d'un coup, la madame a fait « Hum, c'est donc bien bon. »
Oh ouais.
Oh boy. La pression est retombée. Puis ça a vraiment commencé comme ça. Puis là, je me suis mis à faire des dégustations. Cette fois-là, j'ai vendu quasiment le trois quarts d'une caisse. Les caisses, à l'époque, c'était des caisses de 100 bouteilles. Fait que c'était okay. Quand même beaucoup.
Crème quand même, c'est beaucoup?
Ouais. Là, ça, c'est des caisses de 12, mais avant, c'était des caisses de 100 unités. Fait que j'avais vendu quasiment le trois quarts d'une caisse. Et là, si ça marche une fois, ça va marcher une deuxième. Étant donné que souvent, les IGA, c'est des regroupements, soit c'est des propriétaires qui ont 3-4 IGA.
Ouais, ou ouais. Un peu comme dans mon industrie.
C'est des coopératives. Alors, les IGA Chauveaux, ça faisait partie de la coop conviviaux. Les IGA conviviaux, il y en ont trois. Fait que là, le lendemain, le lundi, je m'en vais à Val-Bélair. Fait que je vais voir le gérant de l'épicerie Val-Bélair. Il me dit, oh non. Je dis, OK. Pourtant, Chauveaux, ils l'ont pris. Ils ont vendu trois quarts d'une caisse en fin de semaine. Hein? Chauveaux a vendu ça? Parfait, amène-moi-en une. Puis là, après ça, j'étais allé voir le troisième. Lui, il a aussi le prix. Puis là, ben, j'étais allé voir d'autres déjà, dire, ben oui, les trois convives, oui, ils ont. OK, bref, de moi en une. Fait que, tu sais, ça a fait l'effet domino de cette façon-là. Ouais, ça,
nice,
ça a
man,
été.
Nice. C'est une belle, ça, c'est belle ça histoire de grind, tu sais.
Ouais. Ça a été vraiment le début de ne pas lâcher, mais ça a été tough en crime, là. Il y a des nuits que j'ai pas tant dormi, bien dormi, je te confirme.
Fait c'est sûr, puis 5 ans plus tard, tu es capable de payer ton Internet, je suppose?
Un peu plus. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'en affaires, dans le début de même, il y a des gens, il faut qu'ils te fassent confiance, qu'ils te donnent un break. Puis moi, j'en ai parlé toute ma vie. Mon propriétaire qui louait mon condo à l'époque, à un moment donné, je suis allé le voir, j'ai dit, écoute, tu as deux choix, soit que tu m'envoies à la régie ou tu me fais confiance, puis écoute mon projet, ma business que j'ai lancé, puis tu prendras ta décision après. Fait que là, on était allé dans son bureau. J'ai compté c'était quoi mon modèle d'affaires, qu'est-ce que je voyais, puis qu'est-ce que je voyais dans ma business. Et là, il me dit, parfait, je vais te laisser un break. Tu viendras m'en payer en septembre. Allô? Il m'a laissé 6 mois de break.
Wow!
Hey, tu sais, si tu n'as pas des gens qui te donnent une chance comme ça, je considère que c'est tough de passer à travers un début. Il faut que des gens te laissent des breaks.
Ouais, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. La traversée du désert au début est super longue. Puis, comme tu dis, t'as pas le choix. C'est sûr que tu sais, même moi, je regarde mon parcours et je suis capable d'identifier facilement les personnes qui m'ont donné des breaks, là, qui m'ont permis de faire des pas de géant sans que j'aille à déployer des ressources financières ou de temps. Là, fait
que... Parce qu'au début, il n'y a aucune institution financière qui voulait nous prêter de l'argent. Puis, tu sais, je savais très bien avec. Parce qu'au début, quand tu commences, puis c'est tough, tu prends ton dossier de crédit, tu ouvres la poubelle, tu dis, il y a ton dossier de crédit aux poubelles, puis tu fermes la poubelle, puis tu le reprends dans 5 ans. Tu dis, c'est pas mal ça, parce que tu es obligé de t'hypothéquer. En tout cas,
exactement.
Pour notre part, nous, on est obligé de s'hypothéquer personnellement au niveau de notre crédit personnel, parce que sinon, tu peux pas lancer un projet de même, surtout dans un marché, comme tu l'as dit, où il n'y avait rien de démocratisé au début. Il y avait Tabasco, Sriracha, puis le monde ne mangeait pas d'autres sauces piquantes. Donc, étant donné que j'étais banquier avant, j'ai même pas pris la première année puis la deuxième année, j'ai même pas pris la chance de prendre un rendez-vous à la banque parce que je savais que je me ferais dire non.
Étant ça ne change rien parce qu'ils font juste regarder tes états personnels à ce point-là. Là.
C'est
t'as ça. Passé tracking.
Je me suis dit, je vais me créer un historique, je vais créer des belles ventes, des profits, je vais toutes les sessions dans l'entreprise, je vais générer un cash flow. Après ça, je vais aller voir une banque.
Oui, il nous est arrivé la même chose. Première année, nous autres, je me souviens, on avait vendu 545 000. Puis j'étais comme, moi, première année, on sort du bois, on vend 545 000. Je suis là, je suis pétant de confiance en allant à Scotiabank. C'est sûr qu'il m'allonge au moins 50 000 parce que là, on est en croissance fulgurante. On a besoin de cash flow. Moi, j'ai des cartes de crédit qui ne peuvent pas augmenter parce que j'ai passé un gros salaire. Fait que tu sais, je suis pris dans un spot financier où personnellement, je ne suis pas capable d'augmenter mes limites. Fait que j'ai pas le choix d'utiliser mes chiffres de la business et essayer de faire un move. Fait que je vais à la banque et ils me disent honnêtement, là, en bas de 2 ans, même 3 ans, vous avez pas assez de tracking. Là. Même si tu montes des beaux chiffres puis un peu de profit, il n'y a rien que je peux faire pour toi. Là. Je regarde tes personnels puis tu n'as pas de maison, tu n'as pas de condo, tu n'as pas de char à ton nom. Comme il n'y a rien que je peux faire. T'sais.
Le mot love money, il aime ça le dire. Hein? Ça va prendre la love money. Pour ceux qui écoutent, la love money, là, c'est tes parents, tes amis, tes mononcles, tes matantes qui pourraient te prêter de l'argent. Les banquiers, c'est ceux qui disent. Non, en théorie, si tu te mets à leur place, tu gères un risque. Eux autres, ils ont des comptes à rendre, puis tu sais, je comprends. Là, je comprends totalement qu'ils me disent non, qu'ils m'auraient dit non à l'époque, parce que même moi, même si j'ai l'air bien confiant de mon projet, eux autres, ils parlent avec des chiffres au centre d'approbation pour faire prouver ton projet. Hein, si t'as pas de chiffres. Par contre, mon père, c'est un homme d'affaires aussi. Puis ça, je vais avoir une anecdote à raconter parce que mon père, c'est un homme d'affaires incroyable et extrêmement sévère. Puis laisse-moi te raconter ça, puis je vais te parler de l'anecdote. Puis mon père m'avait dit au début, tu as 4 personnes à avoir autour de toi en affaires. Ton banquier, ton avocat, ton comptable, puis un bon fiscaliste. Il faut que tu aies ces 4 personnes-là autour de toi pour t'accompagner dans ta business, toujours. Il faut que tu sois proche de ces gens-là pour qu'ils puissent t'aider à te propulser en haut. Si tu n'as un contre toi, tu es dans la misère. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, là, mais si tu n'as pas ça, ça va pas bien.
Fait que c'est quoi l'histoire?
Ouais, avec mon père. Écoute ça, d'un début. Pas longtemps après l'histoire de comment on commençait, on faisait des dégustations. Il me restait tout gaz pour partir de mon condo à chez mon ami Jean-François Royer. Fait que j'ai pris mon auto, je suis parti chez mon chum Jeff. Puis c'était un mercredi soir, j'ai cogné à la porte. Hey PO, ça va, qu'est-ce que tu fais? Puis tu sais, j'ai l'air d'avoir été dans la misère, mais je l'ai bien été. Là. Mon cellulaire était offline parce que j'étais plus capable de le payer. Comme je te dis, je prenais l'argent pour acheter de la matière première au lieu de payer les autres. Fait que là, il dit, tu m'as pas appelé avant. Je dis, non, mais écoute, c'est un peu gênant, Jeff. J'aurais besoin de 20$ pour mettre du gaz dans mon char pour descendre à Saint-Georges voir mes parents.
Hey.
J'ai pris mon orgueil, puis j'ai ouvert la poubelle. J'ai vu mon dossier de crédit dans le fond de la poubelle, là, puis j'ai tiré mon orgueil par-dessus.
T'as pas le choix. Ça fait un beau splash dans le fond de la poubelle, ces deux-là.
À ce moment-là, j'avais 32 ans. J'avais 32 ans. Fait que tu sais, à 32 ans, moi, tous mes amis, c'est des médecins, c'est des gens qui travaillent dans la haute finance, c'est des dentistes. Fait que tu sais, tout du monde qu'à ce moment-là, il y avait déjà des maisons, un premier enfant, plein de l'argent. Puis moi, je manque 20 piastres.
20 piastres, ouais.
Fait que je suis parti à Saint-Georges. Et fait que là, mon père est tout surpris. Qu'est-ce que tu fais là? Fait que là, j'ai dit, écoute, père, j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent. J'ai besoin d'argent. C'est comment ça? Là, je connaissais un peu mon projet parce que quelques mois avant, j'avais dit que je m'étais parti en affaires dans la sauce piquante, puis il a éclaté de rire avec mes frères et sœurs. C'était durant un souper. Fait que là, je m'en vais le revoir une couple de mois plus tard pour y parler de ça. Fait que yo, il dit, il colle une pizza, on mange de la pizza. Tu sais, j'étais un peu, pas démoralisé, mais j'étais pas là en meilleure forme. Fait qu'on finit de manger la pizza, il prend le revers de la boîte de carton de pizza, puis là, il se met à me dire, voici, moi, qu'est-ce que je vois ça pour ta business, blablabla, blablabla. Je l'écoute, je prends des excellents conseils. Il dit, parfait, mon homme, je vais te prêter 5 000. Fait qu'il ouvre son carnet, fait un chèque. Il me tend le chèque de 5 000. Je viens pour le prendre. Il est sorti. Il fait, juste avant, prends ton cellulaire. Je fais, OK. Là, j'étais sur le Wi-Fi chez mes parents parce que je ne pouvais pas avoir de cellulaire, pas de service. Il dit, crée ton avocat, puis il dit qu'il me fasse un billet pour tes états financiers. Je dis, ouais, mais papa, ça va me coûter 400$ de frais d'avocat. Morgan dit, tu le veux-tu ton chèque?
Ah ouais, fuck.
Incroyable.
Puis, tu sais, 10% que ça envoie de notes en partant. Là,
ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, ok, parfait. Et tu veux, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai le choix de partir zéro ou à 4600. Fait que le choix était pas trop dur à ce moment-là. Puis à cette heure, là, ce qui est quand même drôle, il est actionnaire à 10%. Il a injecté beaucoup d'argent pour la croissance. Puis à cette heure, c'est lui qui était directeur administratif chez nous. T'sais.
Cool, mais tu sais, c'est normal au début que le monde autour de nous ne comprenne pas trop. En même temps, ils s'intéressent plus ou moins au projet. Puis, faut pas oublier que souvent, ils font ça pour nous protéger parce qu'ils nous aiment, tu sais, parce qu'ils savent pas à quoi on fait face. Puis, je pense qu'il faut pas leur en vouloir, là, même d'avoir ri, tu dis, tes frères et sœurs avec tes parents. Il faut pas leur en vouloir, là. C'est une forme de protection en soi. Là.
Puis, j'ai un de mes frères qui travaille pour nous maintenant, il est rep depuis 3 ans.
Wow, c'est bon, man. Tu vois, c'est une belle histoire. Puis t'engages. Tu vois, ma soeur a fait du graphisme pour nous en ce moment. Fait que même chose, j'essaie de donner du travail.
Ben, c'est malade. Ben, tu sais, la morale de toute cette histoire-là, c'est comme, faut que tu suives la vision que tu as de. C'est tout le temps le bout que j'ai de la misère à expliquer aux gens. C'est que, genre, dis, j'ai une vision. À ce moment-là, j'ai une vision. Mais tu sais, c'est quoi une vision? Hein? Fait, moi, je savais que un an, 2 ans, je pouvais faire ça, 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 ça. Puis là, tu sais, je voyais tout l'arbre se dessiner de 0 à 5 ans. Fait que, tu sais, faut que tu ailles là, mais il y a plusieurs étapes. C'est ça qui est tough. Je sais pas si toi, t'as un peu ce problème-là de comment expliquer ta vision de ta business. Parce que c'est vulgarisé. Si je disais tout, le monde me trouverait un peu débile. Parce que on ferait comme, voyons, c'est impossible. Impossible pour moi, c'est tout est possible, en fait.
Mais je pense que la meilleure façon de la vulgariser, c'est de parler le même langage à qui tu t'adresses. Fait que souvent, d'être capable de vulgariser ta vision en différentes formes de langage. Fait que si admettons, je m'adresse à mes parents, je vais l'imager d'une façon. Si je parle à mes amis, je vais l'imaginer, d'une autre. Même chose si je parle à un autre groupe de personnes. Fait que c'est d'être capable de le parler en différentes langues, je pense. Théo, vous avez fait une grosse pénétration ensuite dans les restos. Parlons de positif, parlons de croissance. Tu as fait une bonne pénétration dans les restos. Là, je me souviens, un moment donné, ça a déboulé mon gars Normandin, Atelier, tout Québec au complet. Je ne sais pas de quoi a l'air votre développement à Montréal. Mais parlons de cette transition-là. Là, rentrons dans le positif, dans la croissance, parce que vous avez eu une belle croissance. Parle-nous de qu'est-ce qui a débloqué, puis ensuite, de quoi a l'air actuellement votre distribution là, dans les restaurants.
En fait, ça a vraiment débloqué vite, pour vrai. La restauration, ça a été notre premier gros client en premier. Parce que c'est en 2015 quand que les Blanchettes ont ouvert le premier shaker à Sainte-Foy. En avril 2015, ça doit faire 5 ans là qu'ils ont ouvert leur premier shaker. C'est eux qui ont acheté la première bouteille de sauce Fireburns pour la restauration. Puis, étant donné qu'ils
ont... Connaissais-tu des gars du... C'est MYT, ces gars-là?
Non, c'est...
Gros Blanchette.
Gros Blanchette, ceux qui avaient Chocolato, qui ont vendu...
ceux à la pyramide, là, ouais,
c'est ça. Okay. Là, il y en a 16, je pense. Puis André François, qui est un des frères et cousins, ils sont aussi des cousins et frères, il nous a dit, nous autres, on va avoir les sauces Fireburn sur les tables. Parfait, parce qu'ils servaient des tartares. Donc, ils amenaient des sauces aux tables. Puis les gens, ils ont commencé à goûter les sauces Fireburn avec les tartares. Puis, ils ont aussi trouvé les produits qui étaient dans quelques supermarchés à l'époque et les gens ont commencé à les acheter pour la maison. Fait que ça a été vraiment un cross-sales, qu'on pourrait dire, là, où les gens ils goûtaient puis ils
demandaient. Ouais, l'épicerie l'achetait.
Oui, exactement. Donc, ça a commencé avec les Blanchettes, avec les shakers. Ensuite, ça a été avec l'atelier sur Canada avec Fabio puis Jonathan. Ensuite, ça a été les Cosmos. Les Jack Saloon, ça a été à l'époque, parce qu'ils sont plus avec nous, c'est Archibald. Et ça a commencé comme ça, ce groupe de chaînes de restos-là, qui nous a permis d'avoir une belle visibilité au niveau de la restauration et ensuite au niveau de, du retail.
Je suis curieux comment ça fonctionnait la pénétration. Est-ce que une fois que le shaker, ben, tu devais avoir un contact à l'interne au shaker dans le fond?
Ouais, c'est Frank qui l'a eu avec André François au début. Okay. Puis après ça, ben, c'est ça. On a tout le temps entretenu cette relation-là avec les Blanchettes. Ça a commencé de cette façon-là. Ensuite, ça a été vraiment un bon reality check parce que on a tellement grossi vite, on n'a tellement pas mis de structure dans l'entreprise. Tout est un peu tout croche. C'est quand on a perdu notre premier client
qui était à cause
d'une question de distribution puis de peu importe. Que là, on a mis le pied sur frein et on a dit parfait. Là, on met le pied sur frein, on met une structure dans l'entreprise.
Fait que plus de c'est développement d'affaires, on prend une pause, on va restructurer parce que la base n'est pas assez solide.
Exactement. Puis ça, je pense, ça a été un bon. Sur le coup, ça a été dur à prendre parce que tu sais, c'est ton premier client, tu perds. Ça a été vraiment la plus grosse étape en premier. Donc, mettre un pied sur le frein, on met la structure dans l'entreprise, on prend un pas de recul. C'est le fun, la croissance, c'est fun de revoir des revenus rentrés. Là.
Ben ouais, c'est dangereux, par exemple.
C'est ça. Parce que là, il faut que tu aies quelqu'un qui s'occupe de tes comptes à recevoir, tes comptes payables, il faut que tu aies quelqu'un au RH, il faut que tu aies quelqu'un...
Aux opérations,
aux achats. Puis là, à un moment donné, moi, je faisais... Frank, il avait ses affaires, mais moi, je faisais vraiment une grosse portion. Parce que Frank, au début, il a comme gardé son travail dans les premières années, mais on se parlait tous les jours, il travaillait quand même très fort. Mais moi, je m'occupais de tout au quotidien, au day-to-day. Fait qu'à un moment donné, je n'avais tellement ses épaules que tu n'échappes.
T'as pas le choix, mais oui.
Fait que là, c'est là qu'on a mis le pied sur frein, on s'est mis à engager du staff. On a engagé du staff et on s'est mis à mettre une structure et surtout, la meilleure décision qu'on a prise, c'est aller en distribution. Tantôt, toi, tu parlais de faire ta distribution, mais nous, ça venait trop gros puis le risque était trop élevé avec les restaurateurs. Donc, on a dit, on s'est listé chez certains distributeurs comme Gordon Food, GFS et Viandex à Québec. Ça a été les deux premiers. On a envoyé nos clients acheter chez nos distributeurs pour pouvoir permettre de se concentrer sur la production puis faire vraiment un produit de qualité. Continuer à faire un produit de qualité.
Fait qu'est-ce que vous avez fait, c'est que vous avez coupé dans les marges, vous avez arrêté de faire le direct, vous êtes passé un distributeur, mais vous êtes ôté toute la charge d'opération qui venait avec.
Ah oui, parce que tu n'as plus de compte à suivi de compte à faire. Parce que
c'est sûr,
mais oui. Un client
ben oui.
qui achète ton produit, lui, il le redistribue. Oui, tu perds des marges, mais au final, tu n'as pas besoin d'engager quelqu'un pour faire tes comptes à recevoir parce que tu sais, nous, chez nous, les clients, c'est Metro. Sobeys qui est IGA, GFS, Viandex, quelques autres clients à gauche et à droite. Fait que, tu parles que tu as 300 clients à 5.
Oui, c'est ça. Mais au meilleur de mes connaissances dans l'alimentaire, c'est standard parce que même, admettons, GFS qui servent les restos, je pense que c'est un des gros distributeurs de restaurants. Ben, oui. Souvent, admettons, l'atelier qui veut des sauces Firebarns, il va se commander autre chose en même temps puis il va avoir une longue liste de commandes. Fait que, au bout du coup de l'année, c'est mieux pour eux aussi.
Parce que veux pas, tu sais, les chefs, avant que tout le COVID explose, ils étaient débordés parce qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Puis je me mettais à leur place de dire parfait, il faut que tu achètes tel produit à l'externe de ton distributeur qui pourrait tout avoir sur une liste. Fait que tu enlèves cette charge-là à ton client.
Ben ouais.
Bien plus facile en même temps.
Fait que nous autres, ça a explosé là. Parle-nous donc d'un défi de croissance que vous avez vécu. Nous autres, on a fait une croissance vraiment ultra rapide. C'est venu avec des gros défis. J'en parle dans d'autres podcasts. Vu que c'est le mien, j'ai la chance d'en parler souvent. Mais Théo, parle-nous d'un défi particulier. Ça peut être opérationnel, financier. Choisis le défi que tu veux. J'aimerais ça que tu nous parles d'une chose que tu as vécue puis comment t'es passé à travers de tout ça.
Oui. J'en aurais quelques-unes à te compter, là. Mais je te dirais, c'est cette année. On dirait que la quatrième année est tough. 2-3, c'était vraiment le fun. La deuxième et la troisième année, c'était vraiment le fun à travailler. La quatrième, je te dirais le projet de l'usine qu'on vient de faire. Parce qu'on vient d'investir quasiment 1 million dans un projet d'usine. Okay. On s'est automatisé. Donc, on a décidé d'automatiser les procédés. Donc, il n'y a plus à avoir de manuel sur la ligne d'embouteillage. Fait que, ce qui est arrivé, c'est que le projet, c'est tellement gros, tu sais, tu investis 1 million. Tu as des contrats en poche parce que maintenant, on vendait, ça s'appelle le backdoor chez IGA et chez Metro. Donc, tu vends au commerçant direct. Ce qui veut dire que tu vends à chaque propriétaire de chaque IGA, chaque Metro. Mais là, nous, on a pris des ententes en tablette parce que chaque tablette dans une épicerie est vendue à la compagnie. Fait que peu importe quand tu vas au IGA ou bien au Metro, bien, quand tu t'envoies à telle place, dans n'importe quel supermarché, tu vas toujours retrouver sensiblement la même place, le même produit. Ce qu'ils appellent des planogrammes. Je ne suis pas mal sûr que tu connais ça au point de vue.
Oui, dans notre industrie aussi, il y a ça dans certaines chaînes. Dans le fond, c'est qu'ils te vendent un peu de real estate dans le magasin. Là. Fait que tu choisis ton. C'est comme tu achètes un terrain dans le magasin. Là.
Exactement. Puis c'est ta place. Fait que cette année, ça a été mon mandat de. C'était ce que j'ai fait avec chez IGA et chez Metro de planographier nos produits. Okay. Qui vient avec une méga. Charge de travail parce que ça te prend une force de vente sur le terrain pour appliquer les planogrammes. Parce qu'ils ne sont pas toujours respectés à la lettre. Même si tu payes un certain montant d'argent que je vais cacher aujourd'hui parce que je ne veux pas faire peur à personne.
C'est juste vous dire, là, on prend une parenthèse, ça coûte cher en salle du real estate dans un magasin. Là, je ne connais pas les chiffres alimentaires, là, mais si tu veux un bout d'aller, il va falloir que tu dépiles pas mal. Là.
Il va falloir que tu aies des poches profondes. Que tu sois québécois ou pas québécois comme compagnie, on parle de chiffres. Puis c'est correct parce qu'ils font c'est de la business. Puis c'est, tu veux jouer dans la cour des grands, ben il faut que tu agisses comme un grand. Fait que le gros défi a été les planogrammes parce que tout est arrivé en même temps. L'entente des planogrammes qui ont commencé avec IGA Metro en mai passé, qui se sont conclus en septembre cette année. Parce que nous, on savait qu'on déménageait dans le projet d'usine qui nous amenait ce volume-là pour grossir. Et aussi des ententes qu'on avait avec GFS, puis Cisco et les autres distributeurs pour la restauration, puis les ententes qu'on avait signées avec d'autres chaînes de restaurants pour continuer à grossir. Et c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais on fait pousser nos récoltes de piments cette année. L'année passée puis cette année, on a commencé à faire pousser nos récoltes. Ça a été... Ce que je te parle, là, c'est, tu me demandes mon plus gros défi, mais c'est une succession de trucs qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Vas-y. Donc, je vous ai parlé des planogrammes en septembre. Les récoltes, quand les récoltes sont arrivées en début octobre à l'usine, Julien, quand que 13 tonnes de piment débarquent chez vous, c'est beau.
Je sais pas quoi ça a l'air, arrive, là, mais...
Tu iras voir sur mon Instagram. Veux-tu que je le montre par mon Instagram?
Non, il y a trop de... La plupart du monde écoute audio, fait que...
OK.
Mais écoute, moi, je vais aller voir sur ton Insta pendant qu'on se parle, continue à raconter, puis je vais avoir plus de contexte.
Pastille. Je vais te montrer un petit peu. C'est la pastille.
D'ailleurs, on va faire une pause si vous voulez suivre PO. Son personnel, c'est PO Drouin 1 et sa business, c'est Fire Barnes. Donc, Fire Barnes, B-A-R-N-S. Allez voir ça.
Parce que sur mon compte Instagram, je mets beaucoup l'arrière de la business. Tout ce qu'on passe à travers, c'est quoi les projets, comment on le fait, comme le projet de l'usine, je l'ai mis aussi là-dessus.
Fait qu'il est où ton 13 tonnes de piment, c'est où que je vois
dans ça? La section récolte, tu vas voir la pastille récolte.
Ok, ouais, c'est bon.
Non, c'est pas ça, c'est. Voyons.
Usine, je suis en train de checker tes pastilles.
Un petit peu. Ah, moi, ça se peut pas que je l'aie pas mis. Où je vais le mettre? Ah ben, bateau. Je ne l'ai pas mis.
Bref, on va tous s'imaginer de quoi a l'air 13 tonnes de piment. En tout
cas, je vais te l'envoyer. Si tu veux, je peux te l'envoyer par Instagram, Julien. Je vais faire ça à l'instant même pendant que je parle. Fait que quand on est allé, quand les 13 tonnes arrivent, je vais te dire une chose. 13 tonnes de piment, quand ça débarque chez vous, tu es comme... OK, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que tu es équipé pour manipuler les piments, le staff, ils savent quoi faire. Mais on travaille, mettons, à un coût de 100-200 kilos. Mais on s'entend que c'est une tonne, là, ça représente 400-500 kilos. Là tu en as 13, c'est pas le même qui arrive. Et là, tu regardes ça, tu fais, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Fait que là... Tu ne veux pas perdre ton stock. Fait que là, là, tu monopolises tout ton staff, mais le staff, il se décourage à un moment donné et qu'il a été des piments puis il avait des piments. Et là, ça a été un énorme défi parce qu'il a fallu acheter des barils pour la préservation des piments. Mais tu sais, ça a été un super projet parce que ce qu'il y a dans nos bouteilles, c'est 100% québécois. C'est des piments qui poussent dans la région de Saint-Damas. Pardon, dans la région de Saint-Damas, Saint-Hyacinthe. Ensuite, il est venu le projet de l'usine, un ou deux mois plus tard, la transition vers l'usine. En novembre, on avait une entente avec notre propriétaire où est-ce qu'on était à l'autre place parce que la construction n'était pas prête encore. Il fallait partir le 13 novembre. Mais le 13 novembre, on avait, lui, il nous avait donné un mois qu'on pouvait dépasser notre bail pour pouvoir rester là, pour permettre la transition vers la nouvelle usine qui allait être prête comme fin décembre.
Puis la joie des constructions, on le sait, là, c'est impossible que ta construction soit prête en date. Là.
Justement, tiens, je l'ai... On voit ça un instant. C'est parti. Fait que on avait demandé à notre propriétaire une extension de 30 jours. Puis finalement, comme une semaine avant le 13 de novembre, le propriétaire nous dit finalement, j'ai loué votre local. Fait qu'il faut que vous partiez vraiment le 13.
Oh wow!
Et là, on se retrouvait, Noël, c'est un gros, gros temps pour nous autres. On fait beaucoup de ventes en supermarché. Fait que là, il fallait survivre sur un 10 cents. Et le propriétaire qui nous bâtissait notre usine, il nous a dit, je parlais de ça tout bonnement. Il me dit, hey, viens voir, j'ai un local à côté de votre nouvelle usine que je pourrais vous prêter temporairement. Fait que je m'en vais tout de suite voir ça. Je rentre là, je fais comme, wow, c'est exactement ce que ça nous prend pour virer temporairement. Fait qu'en dedans d'un week-end, on a refait une usine temporaire, mis ça aux normes de la MAPAC, puis on a pu recommencer à produire comme le 17 ou le 18 novembre.
Wow!
Et ensuite, on est déménagé dans la nouvelle usine début février. Puis même moi, je suis parti et je me suis acheté une nouvelle maison. J'ai déménagé au mois de janvier. Fait que tous ces déménagements-là vers la nouvelle usine, vers ma nouvelle maison, ont fait en sorte que ça a été vraiment les plus gros défis parce qu'il fallait continuer à produire. Et nous, la saison du barbecue qui est là, on avait des gros contrats à livrer, mais encore une fois, avec tous les paiements qu'on avait à faire pour la nouvelle usine, nous, je te partage ça, mais nous, on ne charge pas de taxes aux clients. Fait que mm-hmm. Nous, on a souvent un compte créditeur au gouvernement. On paye des taxes sur les bouteilles, les étiquettes, les bouchons, peu importe les achats de machines. Fait que là, on s'est ramassé en fin janvier, mi-février, avec on ne pouvait plus opérer parce qu'on était tellement haut en inventaire parce que nos contrats de barbecue, on les livre comme en ce moment. Fait qu'il fallait faire tout l'inventaire. On était créditeur au gouvernement pour tous les achats des machines qu'on a fait pour la nouvelle usine, plus la matière première.
C'est long de se faire payer, mon gars, là. Quand ils sont créditeurs, là, tabarouette.
60 jours. Puis tu te demandes tout le temps, étant donné que tu doubles, même si tu doubles ton chiffre d'affaires chaque année,
ils te vérifient, là, après.
Ils vérifient puis... quand même. Fait qu'ils... Oh. En tout cas, bref. Fait qu'on s'est retrouvé où qu'on n'était plus capable d'opérer pendant une semaine parce qu'on manquait d'argent sur le cash. Wow. Fait que ça a été à un moment donné, tu sais, tu viens avec un moment où tu dis OK, il faut que je fasse de quoi, faut que je pose une action maintenant, sinon on arrête tout. Puis j'ai appelé au ministère du Revenu en leur disant, pas en les menaçant, mais en leur faisant comprendre que c'est pas normal qu'une compagnie comme nous, on doit financer le gouvernement. C'est un bon montant, là. On est plus proche de 100 000 que 50, là. On se comprend? Fait que, tu sais, c'est de la marge que tu as besoin pour opérer à tous les mois, pour payer tes salaires puis ta nouvelle matière première. Fait que ça a été cette période-là, je te dirais, qui a été la plus dure parce que la madame au gouvernement était bien compréhensible. Elle m'a dit, je peux rien faire. Tout est enregistré. Ça va être payé juste dans deux semaines. Ouais, mais dans deux semaines, je fais quoi en attendant, moi, pour opérer? Voulez-vous que j'y aille vous porter les clés pour continuer à opérer mon entreprise? Fait que là, Puis là, c'est là où ce que j'ai fait un peu comme j'ai fait au début avec le gérant d'épicerie. J'ai appelé le lendemain, j'ai appelé le surlendemain. J'ai dit, écoutez, j'ai besoin de mon argent. Je suis sûr que si vous parlez à votre supérieur, vous allez pouvoir faire quelque chose pour nous. Puis là, ben, je reviens à ce que je te dis au début. L'important d'avoir des bonnes relations avec soit ton avocat, ton banquier ou ton comptable. Ben moi, c'est là que j'ai appelé mon banquier et j'ai dit, écoute, je suis plus capable d'opérer pendant 5 jours, 7 jours, mais voici ce qui va arriver dans 14 jours au niveau du cash flow. Fait qu'il me rappelle une journée ou deux plus tard, il dit, parfait, PO, je vais te permettre de continuer à opérer, je te libère des fonds pour que tu puisses continuer à opérer. Fait que ça a fait comme...
Oh ouais, mais t'avais pas le choix, je pense que c'était la bonne solution aussi. Là.
Et il est arrivé le COVID.
Et il est arrivé le coup de poing dans la gueule, le COVID, man. Direct, t'as raison, tu me parlais de février, COVID arrive en fin février, là, début mars.
Là, t'es comme... Parce que c'est ce que j'expliquais au staff, c'est qu'on met en... On avait un plan 12 mois sur avec la nouvelle usine, les nouvelles ententes qu'on avait signées, les nouvelles stratégies avec les forces de vente, pour que le 1er mai, l'entreprise prenne soit prenne son expansion au maximum. Fait que là, man, là, t'es obligé de tout casser ça en 1000 morceaux, plus rien tient. La restauration est fermée, 30% de perte de chiffre d'affaires. Du jour au lendemain, on prend 30% de chiffre d'affaires. Tu sais, 30% de 1 million, c'est 300 000, je te rappelle. C'est de l'argent, là. C'est bien
d'argent. Fatiguant, là.
On prend ça, puis on tire au vidange. Là, j'ai regardé dans la poubelle. Oh, le dossier de crédit, il n'est plus là. Fait que ça, c'est quand même pas vrai.
C'est bon, c'est ça.
c'est ça. Donc là, tu perds 30% de ton chiffre d'affaires. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Là, la problématique... C'est qu'en épicerie, nous, notre modèle qu'on avait bâti, c'était sur les relations avec les gérants, la force de vente. Donc, prendre des ententes de positionnement dans les supermarchés pour faire de plus de ventes. Mais là, dans les supermarchés, là, penses-tu que les gérants d'épicerie ils ont la patience de nous voir et surtout vouloir prendre des commandes de sauce? La réponse est non. La priorité, c'est le pain, beurre, œufs, juste que ce qu'elle s'appelle au minimum. Et puis, on ne peut plus envoyer de force de vente. Fait nos ventes en épicerie baissent.
Ben oui, évidemment.
Ben, c'est plus 30, c'est 50. Là. Par contre, on a décidé, Frank et moi, de prendre un virage e-commerce, même si on vendait à chaque mois. C'était tout le temps, c'était dit. On n'avait jamais focusé sur notre site web parce qu'on l'avait commencé il y a 4 ans. On avait commencé il y a 4 ans pour fournir. Le site web fournissait les parties du Québec où qu'on n'avait pas de point de vente.
OK.
Fait que c'est de même qu'on avait bâti ça.
Oui, parce que tu n'avais pas compétitionné à tes distributeurs non plus. Là.
Exactement. Fait que nous, on s'est dit, on va faire ça de cette façon-là. Fait qu'on avait tout le temps un certain montant par mois qu'on roulait sur notre site web. Puis le 18 mars, on a décidé de prendre complètement le virage.
OK.
En novembre passé, on avait refait tout le site web. Frank avait tout refait le site web Shopify. On avait fait des belles photos. On avait tout refait ça comme il faut. Et là, par chance qu'on a une bonne plateforme, parce qu'en ce moment, les ventes du site web sont à plus... Je pense qu'on fait plus 700%. Là.
OK.
Fait, on ne récupérera pas ce qu'on faisait en restauration puis sur retail, parce que le e-commerce ne peut pas battre 700 points de vente, tu comprends? C'est impossible. Non,
c'est impossible. Il n'y a pas ce genre de trafic-là. Au moins, tes marges de profit sont meilleures en direct consumer de ton site web.
Oui, c'est déjà ça de gagner. Mais tu sais, on est parti d'un montant X par mois de vente qu'on vend maintenant par jour. Fait que ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, mais ça amène un lot de défis parce qu'on n'était pas équipé à faire autant de volume, nous autres.
Oui, je comprends.
On a un entrepôt avec un livre qu'on charge des ventes à palette. Fait que tu sais, nous, on est habitué de prendre un livre puis charger des palettes puis mettre ça dans la vanne, puis la vanne s'en va. Là, on fait des colis. On en fait un esti. Mais T'étais
pas prêt à ça. Ouais, ouais. C'est un autre genre de logistique. Puis même, ça prend des logiciels web pour accélérer justement cette logistique-là. Ça prend du staff qui est habitué de travailler avec du online. Il y a du customer support qu'il faut que tu fasses maintenant. Si tu ships sans commande en ligne d'une journée, c'est sûr que tu as au moins 12 emails là, de questions de tracking, questions de problèmes, changement de saveur, j'ai fait une erreur.
Shopify est bien fait quand même. Ça, je trouve ça cool. La plateforme est quand même bien faite pour justement les suivis de colis pour le service à clientèle. Fait que ça, c'est au moins, c'est quand même, ça nous donne
un break.
Un break, mais tu sais, ça a été vraiment une belle surprise. Puis même moi, que je vois ça, que les gens commentent sur notre site web et nous supportent, je trouve ça extraordinaire.
Ben, c'est nice, je pense que c'est le meilleur virage que tu peux. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je veux dire, on est en mode... T'sais, chaque entrepreneur est en mode « qu'est-ce que je peux faire pour survivre? » Nous autres, on a tous les gyms de fermer, là. Avant, mon premier vendeur, c'était notre pré-workout. Il est le pré-workout le plus populaire au Canada actuellement. Du jour au lendemain, il se retrouve 14e vendeur dans mon line-up d'inventaire. Il y a beaucoup de changements qui se passent. Il faut s'adapter à tout ça. Il n'y a pas de miracle, man. Il n'y a rien de...
Ce que je trouve extraordinaire en ce moment, là, c'est de voir comment on s'est mis en mode parfait. On a devancé des sorties de produits. On a dit parfait, on fait ça. On lance ça maintenant.
Même chose pour nous. Hein?
On s'est adapté de cette façon-là, mais on s'est mis en mode réaction au lieu d'être passif et de dire bon, ça va venir, on va attendre. C'est pas ça qu'on voulait.
Ouais, puis c'est le temps en ce moment d'être réactif parce que justement, si tes compétiteurs, eux, dorment, ben c'est là que tu vas réussir à les rattraper, peut-être même creuser un écart avec certains. Je pense que, comme tu dis, tu as la bonne attitude là, par rapport à ça, man.
Puis, tu sais, il y a un mouvement à achat local. Je pense que, tu sais, tu parlais de service à clientèle, puis étant donné qu'on est vraiment présent pour l'achat local, ce que je trouve le plus... comment je présente ça? Le plus dur à répondre en ce moment, c'est par rapport à notre nom qui est anglophone. Les gens, ils boudent beaucoup l'entreprise à cause de notre nom anglophone. Mais tu sais, au départ, Julien, quand on a fondé Fireburns, ben, premièrement, notre nom, c'est Les Sauces Fireburns Inc. On voulait juste trouver de la meilleure façon d'inclure le nom du bulldog dans un nom. Parce que Barney, il existe vraiment. Le Barnes, c'est le nom du chien sur l'étiquette.
Alors, pourquoi un chien sur l'étiquette d'ailleurs?
C'est un bulldog anglais.
OK.
Il s'appelle Barney. C'est le chien à mon partner Frank. Il existe vraiment, Barney. C'est notre président d'entreprise en fait. Et.
Ça, il n'y a pas de lien quelconque avec les sauces. Ça a juste été un buzz de chum.
C'est
Barney
sûr, c'est
va faire partie du brand dans le fond.
Exactement. Fait que okay. Fire Barnes, c'était pas Grange de Feu. C'est un nom qu'on a. Pour faire un nom, on a dit parfait, on va faire un nom commun. On voulait que ça devienne un nom au même titre que Kleenex, au même titre que Frigidaire.
Votre nom, il est excellent. Là. Moi, je trouve ça excellent.
As-tu la Fireburn? Tu sais, c'est. As-tu la sauce?
As-tu la sauce piquante? Ça s'appelle. Moi, je trouve que c'est un très bon nom.
Au niveau marketing, c'est le même. Mais tu sais, j'expliquais ça à une madame dans un. Je répondais à un commentaire. Je disais, écoutez, au début, quand on a commencé, c'était un projet. On pensait pas nécessairement au début que ça deviendrait une entreprise qui générait des revenus puis des employés. Tu sais, Julien, on a 10 employés à temps plein, nous autres, là. Tu sais, je trouve, dans ce mouvement acheter local, oui, on parle du nom, mais faut voir l'ADN de l'entreprise. Nous, on a pris le virage que notre matière première pousse au Québec, nos ingrédients sont sans agent de conservation, nos employés, on a 10 employés à temps plein. On a réinvesti dans une nouvelle usine ici, dans la région de Québec. Fait que je pense que...
Ça peut pas être plus québécois que ça.
C'est ce côté-là que je trouve que les gens oublient vraiment beaucoup. Oublient qu'en arrière d'un nom, il y a un ADN.
C'est vrai. C'est bien dit. Puis, tu sais, je veux dire, ton entreprise peut pas être plus québécois qu'elle l'est en ce moment-là.
C'est ça.
C'est comme si c'est impossible.
Mais souvent, tu sais, j'en veux pas à personne, mais la réflexion que j'ai... Je serais curieux d'ouvrir le frigo de ces gens-là puis voir le nombre de
ketchup,
condiments américains qu'ils ont dans leur frigo. C'est plus ça que je me questionne. T'sais, oui, le nom, mais probablement qu'ils ne savent même pas qu'eux, ils achètent déjà des compagnies qui sont purement américaines.
Mais tu sais, en même temps, PO, j'en fais tellement d'online, j'en ai tellement vécu. on va tous avoir des commentaires négatifs une fois de temps en temps, c'est sûr. Puis je pense que, tu sais, à moins que ton commentaire il revienne 10 fois par jour, là, si c'est juste une madame qui pose ça une fois de temps en temps ou un monsieur, peu importe, c'est pas grave. Il faut s'attarder aux personnes qui aiment notre brand, qui nous encouragent, puis double down le temps qu'on passe à communiquer avec ces personnes-là, puis leur dire à quel point on est appréciatif. Puis, ben, qu'est-ce que tu veux faire avec ceux qui n'aiment pas? Ça sert à rien de passer du temps-là. Il y a des gens que tu ne pourras jamais convaincre à cause de leurs valeurs. C'est pas plus grave que ça. Je pense qu'il faut vraiment focusser avec les gens qui croient en nous et qui veulent nous supporter. Là.
Totalement. Je suis bien d'accord.
Fait que, PO, on est tous occupés les deux en tant que COVID. On va faire qu'est-ce qu'on peut faire. On va continuer de contrôler qu'est-ce qu'on peut contrôler. Merci d'avoir pris du temps avec moi aujourd'hui, man. T'as des belles histoires. Ça va vite. Bon. On t'a dit, ça faisait longtemps qu'on ne savait pas parler en plus. Fait que,
c'est clair.
Je suis super content, man.
Je fais un achat local à chaque jour sur mon site web. C'est pas vrai. Sur ma plateforme d'Instagram. Ça fait 24 jours que j'achète une compagnie québécoise à chaque jour. Puis je me réserve dans les derniers jours à acheter la tienne.
Parfait. Tu m'envoies un screenshot, puis je vais faire de même. Puis je vais même l'acheter pour quelqu'un d'autre.
Ah, ben, t'es fin. Parce que, tu sais, souvent, là, regarde. Ils sont tous sur la table. Je dis, mais là, mais il y a bien des choses que j'ai achetées, c'est même pas pour moi.
Je vais faire un deal avec l'audience. Je vais acheter une deuxième caisse. Tu vends des trios, hein, si je ne me trompe pas?
Mais on vend une boîte.
C'est quoi le plus gros package que je peux acheter?
Oh, c'est une caisse de. Tu prends 6 bouteilles, là, puis okay. Tu choisis ce que tu veux dans l'inventaire. Sinon, tu as l'ensemble cadeau avec une plaquette à l'intérieur.
OK, je vais acheter l'ensemble cadeau avec la plaquette à l'intérieur. La première personne qui a écouté le podcast, qui me DM sur Instagram pour me dire « je veux la plaquette », je te l'envoie à ton adresse. Puis, dans le fond, je l'offre en cadeau à un des auditeurs qui nous écoute. Et par contre, en échange, je vais demander qu'on laisse un 5-star review, un commentaire écrit, s'il vous plaît, sur le podcast. Mais je vais l'offrir à un des auditeurs. Puis, je vais en acheter une pour moi et puis ma blonde, Jane.
J'adore ça. Puis, moi, je organise ton site. Le problème, je vais le faire dimanche. Ça va être mon presque 30e jour. Là. Mais c'est ça. Je vais te faire ça dimanche, puis je vais acheter quelques. Puis probablement, tu sais, je m'entraîne. Et je suis pas quelqu'un qui s'entraîne beaucoup au niveau physiquement, mais je vais l'offrir à des gens que je connais très bien qui vont être heureux de l'avoir.
That's it. Donc, vous voyez, guys, on s'encourage entre entrepreneurs québécois. PO, merci encore. Si vous voulez rejoindre PO sur Instagram, c'est PO Drouin 1 et Firebarns. Moi, c'est Julien Arun et Journal d'un entrepreneur. Guys, on se dit à la prochaine. Raging.